Les médias, pour moi, c'est des chroniqueurs, des animateurs.
Derrière, il y a plein de choses, des techniciens, des micros.
Interclasse.
Ça part de ma génération.
J'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Bonsoir à tous. Interclasse jusqu'à 21h, un dispositif original mis en place par la direction de France Inter. Sept établissements de Paris et de la région parisienne sont à l'œuvre. Tout au long de l'année, des journalistes sont allés dans les classes expliquer comment ils traitaient l'information, vérifiaient leurs sources, élaboraient leurs interviews. Et à leur tour, les élèves se sont mis au travail car il n'y a rien de tel pour tordre le cou aux idées fausses que de mettre la main à la pâte. J'ai parlé des élèves, des journalistes, je m'en voudrais beaucoup de ne pas parler des professeurs dont le précieux soutien est essentiel à notre opération.
Interclasse saison 4, c'est un truc de ouf. Let's go
sur France Inter.
La ministre des Armées, Florence Parly, qui a fait un discours justement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui a clairement affirmé qu'il n'y aurait pas de Terminator dans l'armée française.
Voilà, ça vous donne une petite idée d'un des reportages qu'on va écouter tout à l'heure sur les robots. Ce soir, ils sont donc 14 autour de moi dans notre grand studio, ici au 6e étage de Radio France. 6 des élèves sont déjà installés à la table. Ils viennent de Sarcelles, du lycée Jean-Jacques Rousseau, et ils sont en seconde. Bonsoir à tous !
Bonsoir !
Voilà. À vos côtés, deux de vos professeurs. Bonsoir à tous les deux. Je vais vous demander de vous présenter. On va commencer par Nathalie.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Hérobène Abdelaoui, j'enseigne l'histoire-géographie au lycée de Sarcelles.
Ça se passe bien ?
Oui, très bien.
Ils sont bons élèves ?
Il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais voilà, j'y suis depuis 15 ans et tout se passe bien.
Et là, en fait, il y a plusieurs classes qui sont réunies ce soir, mais avec la même option.
Oui, c'est tous des élèves qui ont choisi de faire l'option littérature et société pendant leur année de seconde.
Ludovic Klein.
Oui, bonsoir. Ludovic Klein, enseignant de français aussi au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles.
Vous êtes un prof sévère, vous êtes un prof comment ? Tout à l'heure, quand je leur ai demandé aux élèves qui étaient avant l'émission comment, si vous étiez sympa, vous vous êtes bouché les oreilles, vous n'ayez pas entendu la réponse.
C'est pour laisser la liberté de parole, on va dire. Nous, je ne pense pas être trop sévère.
Un petit peu, ce qu'il faut.
Bof.
Sophie Bécherel, Christine Siméon et Christophe Barrère de France Inter vous ont accompagné depuis quelques mois dans cette éducation aux médias et à l'information.
L'égalité des sexes,
la liberté d'expression,
la colère,
les gilets jaunes,
le partage,
vivre en France,
vivre en France,
vivre en France
en 2019.
Vivre en France en 2019 s'est décliné de différentes manières en fonction des groupes. À Jean-Jacques Rousseau, vous avez choisi de travailler autour de trois thèmes, les violences policières, les robots et la trisomie 21. Au cours de l'émission, évidemment, nous allons écouter vos reportages. Tout de suite, Banlieue de vie, avec vous Fanny Léonore Crouzet.
Les arrêts défilent à travers la fenêtre du bus 268 qui lie entre elles les deux parties de Sarcelles. D'abord, il y a celles des Cholettes, des Poiriers, des Sablons, des Lochères. Avant d'être des cités souvent mal réputées, elles étaient une solution à un Paris surpeuplé. Dans le domaine du relogement, Sarcelles est précurseur. On y bâtit très vite et en hauteur. Des blocs blancs aux petites fenêtres et aux balcons tous pareils, alignés le long de la voie ferrée. Après l'arrêt Chantepie, le nombre d'étages des bâtiments descend. Et on débouche place de Verdun au milieu de Sarcelles Village. Les méandres de la vieille ville ont d'abord peuplé les bords du Petit Rhône. Pierre, briques et colombages, métissage de matériaux qui a gardé le charme d'un autre âge. Sarcelles la Bigarrée, bastion du multiculturalisme, Sarcelles ville d'accueil de tout temps. Et parmi ces accueillis, je rencontre Christerline, lycéenne venue de Martinique. C'est elle qui vous fait la visite.
Je m'appelle Christerline Saint-Sini, j'ai 16 ans et je suis en seconde. J'ai passé pratiquement mon collège en Guyane. J'avais un peu marre, si je peux dire, de voir tout le temps le même paysage. J'avais envie un peu de changer, j'aime bien le voyage. Là, il y a plusieurs maisons. Là, je suis en face de l'arrêt de bus de Place de Verdun. Là, il y a beaucoup de trucs de kebab, des trucs de fast-food. Là, il y a une boucherie, des arts. Là c'est une école élémentaire, tout fait en face.
Qu'est-ce que tu fais la majorité du temps ?
Des fois, je vais au parc ou bien je suis sur mon portable.
Et qu'est-ce que tu fais sur ton portable ?
Je parle avec des amis.
Sur Instagram ?
Sur Instagram, sur WhatsApp, sur les réseaux.
Et vous parlez, mais vous voyez aussi ?
Oui, une copine de ma classe, mais pas tous. Il y en a, la moitié sont en Guyane et je ne vais pas les voir trop. Donc.
Pour toi, est-ce que c'est une richesse d'avoir grandi en Guyane ?
Oui, c'est une... pour moi c'est un peu pareil parce qu'il n'y a pas trop de différence pour moi entre Guyane et France parce que je peux dire un peu c'est le même pays parce que c'est la même langue. Pour moi c'est la même chose, c'est uni. Genre.
Quelle différence entre l'école en Guyane et l'école ici ?
le niveau est plus élevé, c'est plus compliqué pour moi. Je ne m'attendais pas trop. C'est plus... Là-bas, je trouve que c'était un tout petit peu plus facile, mais là...
Alors moi, je trouve ça très chouette ce que tu dis, Christerline, sur la ville où tu habites. Et d'une manière générale, ce que tu dis sur le pays, la langue, le niveau des élèves, ça te fait drôle de t'entendre, non ? Ça fait bizarre ?
Oui, je n'aime pas trop m'entendre d'habitude.
Tu n'aimes pas trop t'entendre, tu verras, on finit par s'y habituer si tu fais de la radio plus tard. Alors, est-ce que tu aimes bien Sarcelles ? Est-ce que tu aimes bien vivre ?
Oui, j'aime bien Sarcelles.
Pourquoi tu aimes bien ?
Premièrement, c'est tout proche de mon lycée, donc ça va, je ne mange pas trop.
Et tu sors de Sarcelles quelquefois ? Tu vas ailleurs ?
Oui.
Et tu vas où ?
Par exemple, à la Cholette. Au marché de Saint-Denis.
Mélanie, est-ce que tu as l'impression, vous permettez, je vous l'ai dit avant l'émission, mais je vous tutoie parce que ça me vient plus naturellement, j'espère que vous le prenez pas mal. Est-ce que, Mélanie, tu as l'impression quelquefois qu'on peut être discriminée quand on habite un endroit comme Sarcelles ?
Bah, en fait, déjà, Sarcelles, il faut savoir que c'est une ville où il y a toutes les origines à peu près.
Ouais.
C'est une ville plutôt multiculturelle. Il y a de toutes les religions et on vit tous ensemble. Et des discriminations, je sais pas. Dans le Sarcelles, nous, on se discrimine pas trop entre nous. Mais en dehors, si... je donne un exemple. Si à Paris, on dit qu'on vient de Sarcelles, ben, on va nous sortir des clichés. C'est pas trop dangereux, il n'y a pas trop de voyous, ça se passe bien.
Donc, c'est toujours ça qu'on vous demande.
Toujours des clichés comme ça.
Interclasse.
Ça va, ça se passe.
Sur France Inter.
Premier reportage qui porte donc sur la trisomie. Vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce sujet. Et Christophe Barrère, qui vous a accompagné, nous expliquera, j'imagine, comment vous avez travaillé. Mais d'abord, évidemment, on vous écoute.
Nous commençons notre enquête en allant interviewer le docteur Ciota Valti, qui est neuropédiatre spécialisé dans la trisomie 21 à l'Institut Le Jeune à Paris.
Alors, on va parler un petit peu de génétique. Dans chacune de nos cellules, on hérite de chromosomes de notre papa et de notre maman. Et on a 23 paires de chromosomes. Et dans la trisomie 21, on a un chromosome de sa maman et de son papa et un chromosome 21 supplémentaire. Ce qui fait que ce chromosome supplémentaire va entraîner plus exactement des difficultés qu'on va dire médical et qu'il va falloir suivre, et des difficultés d'apprentissage.
Bonjour.
Après le médecin, nous avons rencontré Marlène Farr, présidente de l'association Trisomie 21 Paris et maman d'un petit garçon de 5 ans atteint de trisomie 21. Nous lui avons demandé comment se passe sa vie quotidienne.
Est-ce que l'handicap de votre enfant est un obstacle dans votre vie personnelle ?
Ce n'est pas un obstacle, mais j'ai fait le choix de travailler à temps réduit pour m'en occuper, parce que la prise en charge précoce est vraiment très importante. Actuellement, les jeunes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont été pris en charge des bébés, ont de bien meilleures capacités pour s'exprimer, pour vivre en société, pour travailler. Et donc, j'ai fait le choix de m'en occuper un peu plus qu'un autre enfant pour qu'il ait le plus de chances possible de s'épanouir quand il sera grand. Tout lui demande plus d'efforts. Mais il est très persévérant.
Et vous, Marlène, en tant que mère d'un enfant trisomique, comment vous imaginez la vie de votre enfant plus tard ? Et est-ce que vous pensez qu'elle serait différente d'une personne non trisomique ?
Oui, je pense qu'elle sera différente. Alors j'espère et je me bats pour que le monde change et évolue. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Déjà, mon fils va à l'école avec d'autres enfants qui n'ont pas de handicap. Et je pense que ça aide à changer le regard des jeunes qui vont grandir et qui seront adultes. Et j'espère que quand il sera adulte et qu'il aura l'âge de Salomé, il y aura plus d'adultes qui ont un handicap, qui vivent en société, qui ne sont pas enfermés dans des établissements et qui donc pourront être vraiment intégrés et qu'il aura moins de difficultés que les difficultés que connaît Salomé actuellement.
Nous accueillons Salomé, qui est vice-présidente de l'association et elle-même trisomique, et nous lui demandons comment elle se sent dans son travail.
J'ai travaillé en milieu protégé, aujourd'hui en milieu ordinaire. Et le problème dans mon travail, c'est que je me sens un petit peu seule dans mon coin et je n'arrive pas à me faire des amis, des collègues et autres.
Et pourquoi en fait ?
Parce que ils ne veulent plus reconnaître que j'ai des difficultés dans le milieu du travail.
Est-ce que ça vous choque ?
Oui, beaucoup.
Vous avez déjà eu des remarques déplacées ?
Oui, et j'ai tout de suite rappliqué en disant j'ai des difficultés, il faut accepter le rythme que j'ai, mais j'ai eu beaucoup de problèmes à mon travail de ce côté-là.
Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que c'est que le milieu protégé ?
C'est un centre d'aide par le travail. On est suivi par des éducateurs, des assistantes sociales, psychologues aussi. Et on fait du travail en étant vraiment entouré avec des éducateurs spécialisés.
Nous quittons Marlène et Salomé et nous nous dirigeons vers le Café Joyeux qui est situé entre Opéra et La Bourse, qui est un café où travaillent des personnes portant un handicap, dont la trisomie 21. Nous rencontrons Jean-Baptiste, un des managers du restaurant.
C'est quoi le Café Joyeux ?
Alors, le Café Joyeux, c'est une chaîne de coffee shop, de café-restaurant, où des personnes sont embauchées en CDI, et ce sont des personnes en situation de handicap, qui malgré leurs différences, leur fragilité, font un très bon travail, parce que c'est des personnes qui recherchent un travail depuis très longtemps. Et donc c'est des personnes qui sont ultra motivées et qui font un super boulot.
C'est sûr qu'ils travaillent plus lentement, ils n'ont pas les mêmes capacités que nous, mais on se rattrape sur autre chose. Ils ont un sens de l'accueil qui est plus développé que moi, par exemple. Ils ont un sens du sourire et bien plus développé.
Alors qu'il y a des gens qui se disaient « mais non, jamais ils pourront faire leur travail ». Eh bien, si on leur donne les clés, ils peuvent y arriver. Peut-être plus lentement, mais ils peuvent.
Mathilde, 21 ans, est porteuse de trisomie 21. Elle travaille ici en tant que serveuse.
Est-ce que vous avez déjà eu des remarques désobligeantes dans votre métier ici ?
Un petit peu, parce que ici, des fois, on fait un peu n'importe quoi. J'ai des problèmes avec mes mains et j'arrive pas à les prendre des choses, donc c'est complètement difficile pour moi, pour être sur plateau. Pour les couverts, ça va, mais les choses lourdes, c'est très dur à les porter et donner des sur un plateau et après on demande au serveur de donner la commande déjà préparée et on donne aux clients.
Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de travailler ?
Ça change, en fait, pour moi, c'est important pour moi. Avant, je faisais pas ça avant. Avant, je faisais des stages avant, plutôt. Et maintenant, je suis embauchée en CDI, en terminée, pour ma vie, c'est ici. Donc, je peux voir plein de monde et c'est important pour moi.
Après ces trois lieux où l'on a rencontré des personnes trisomiques heureuses, nous avons pu en savoir plus sur cet handicap. Ça a été très enrichissant pour nous et nous les remercions.
À mon tour de remercier les élèves qui ont travaillé sur ce sujet. Laura Yalap, Tara d'Ambreville, Théa Servant-Roumet, Mélanie Virapin, Christerline Sintini, Hélène Salda et Lisa Akin, accompagnées par Christophe Barret. Alors, on entendait les mouches voler dans ce studio pendant que le reportage était diffusé. Je pense que c'est quand même un sujet qui vous a bien pris. Mélanie, toi, tu fais comment en classe ? Tu lèves la main.
En fait, on en est venu sur le sujet de la trisomie 21 parce que c'est vraiment un sujet qu'on aborde très peu. Et avec le reportage, ça a permis à d'autres personnes de découvrir cet handicap et de comprendre ce que c'est sans dévisager les personnes porteuses.
Christophe Barrère, bonsoir. Vous avez donc travaillé avec le groupe. C'est sous votre houlette qu'ils ont effectué les reportages. Comment ça s'est passé ?
Bonsoir. Oui, mais quand je suis arrivé à Sarcelles dans le lycée Jean-Jacques Rousseau, que le groupe, j'ai pas choisi le groupe, hein, le groupe avait déjà même pensé à ce sujet sur le handicap, j'ai trouvé ça quand même assez sympa et assez brillant de se décider autour d'un sujet difficile, parce que le handicap pose plusieurs questions. Soit aux personnes qu'on va voir, comment les voir, comment leur parler, comment les interroger. Et en plus, la trisomie 21, qui est un handicap visible, mais aussi dans la société, où il y a peu de place pour les accueillir. Et donc, elles avaient vu ça, et je me rappelle tout à fait, au début, on était parti sur les fake news. Et là, je me suis dit, c'est super, parce que sur les handicaps, on peut dire n'importe quoi. Là, elles vont devoir travailler autour de ce sujet, le décrypter, le structurer, le découper, et se dire qui on va aller voir pour en parler, et selon quel ordre et quelle progression. Et elles ont absolument tout décidé elles-mêmes. Elles ont choisi les lieux, les gens. Le découpage, et je dois dire qu'elles ont été assez franchement, oui, très très bien.
Vous, je sens, je vous vois venir, vous avez envie de les embaucher l'année prochaine dans votre émission, mon cher Christophe. Mais est-ce que c'est pas, quand vous êtes allé par exemple donc au Café Joyeux, est-ce que c'est pas intimidant d'interviewer quelqu'un qui est handicapé?
Non, c'était pas du tout intimidant, au contraire, c'était franchement, ça nous a procuré beaucoup de joie, parce qu'on les voyait, ils étaient contents de pouvoir parler, ils étaient vraiment contents et... C'était pareil pour nous, je pense.
Content de travailler, mais c'est le parcours du combattant hein, pour ceux qui travaillent.
Bah, comme elle l'a dit, elle a souvent des difficultés avec ses mains, par exemple. Mais si on rentre dans ce café, on sait qu'on va être servi par qui. Donc si on va là-bas, c'est que vraiment, ça nous rend heureux.
Tara ?
Alors moi, j'étais très contente de pouvoir rencontrer des trisomies. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de les voir. Enfin, toi, à Sarcelles, il y en a peu. Et du coup, moi, j'étais très contente de pouvoir les interviewer, de leur parler, parce que j'ai découvert leur manière de faire et de parler.
Il y a une question qui, je trouve, est très fine parmi celles que vous posez. C'est la prise de conscience qui est la vôtre, de la difficulté des parents. Quand on est parent et qu'on a un enfant trisomique, c'est pas facile. On n'est pas forcément toujours aidé comme il le faudrait. Comment vous est venue cette question, Laura ?
Je pense que c'est pas facile, parce que c'est... Comme elle a dit, il va grandir plus lentement. Il va faire des choses, il va les faire plus lentement que d'autres enfants. Mais je pense que ça procure beaucoup de joie à un enfant trisomique. Parce que j'ai vu 2-3 vidéos que des gens ont partagées de leur enfant trisomique. Et franchement, c'est magnifique. Ils sont là, ils sont innocents et c'est trop beau.
Est-ce que là aussi, tout à l'heure, on parlait de discrimination à propos des habitants de Sarcelles, vous en parliez. Est-ce que vous pensez que là aussi, il y a des préjugés sur les handicapés et des discriminations à leur égard? Théa.
Je pense que les personnes handicapées, elles sont regardées vraiment différemment, parce que quand c'est un handicap mental, c'est pas forcément physique, donc ça se voit pas. Mais quand c'est les deux, on sait pas trop comment faut être avec eux. Du coup, je pense qu'on leur parle pas trop, on les isole, et c'est ça qui fait qu'il y a des discriminations.
Vous avez, vous, des handicapés dans votre entourage familial ou dans votre classe? Oui, Tara.
Oui, mon petit cousin, il est autiste. Et du coup, c'est pas vraiment facile, mais il grandit, il est heureux, quoi.
Il a quel âge ?
5 ans.
Tu t'occupes parfois de lui ?
Oui, et il est super, il bouge beaucoup. Mais sinon, il est super drôle, super sympa.
Tu le prends dans tes bras, il te fait des grands sourires, des gros baisers ?
Oui, oui. Ouais. Oui, beaucoup quand même.
Laura ?
Oui.
Moi, j'avais un élève de KT qui était porteur de trisomie 21. Quand j'allais parler avec lui, c'était que de la joie, il se prenait pas la tête, c'était jamais ça, c'était mon élève préféré, quoi.
Est-ce que vous pensez que c'est bien pour toute une classe, par exemple, quand il y a un élève trisomique ou quel que soit le handicap d'ailleurs, est-ce que ça permet d'apprendre justement à ce que vous disiez tout à l'heure, à regarder l'autre, à la tolérance, l'attention, la solidarité? Serdi, t'as pas bossé sur ce sujet, mais on va t'entendre, parce que je pense que t'as une idée là-dessus. Puis après, on écoutera Mélanie.
Moi, je pense que ça sert, parce que j'ai remarqué, en majorité, les handicapés, en fait, c'est pas qu'ils sont mis de côté, mais ils sont regardés différemment. Le reportage qu'ils ont fait, il est bien, parce que ils partent de base sur quelque chose qu'ils connaissent pas, et ils apprennent à connaître les personnes qui souffrent d'un handicap.
Mais tout à l'heure, je te regardais pendant, justement... Pendant la diffusion du reportage, t'étais très sérieux et très attentif. T'avais l'air ému.
C'est pas ému, mais franchement, c'est quelque chose de bien qu'ils ont fait, moi je trouve.
Pas ému, parce que les émotions, c'est pour les filles, hein. C'est pas pour les garçons, c'est ça?
Non.
Qu'est-ce qui t'émeut dans la vie? T'es ému par quoi? T'es ému par quoi dans la vie? Quand tu vois une fille passer, t'es pas ému?
Non.
Non?
J'ai pas beaucoup d'émotions, moi.
C'est vrai?
Non.
Pourquoi t'as pas beaucoup d'émotions?
Je sais pas.
T'as peur des émotions?
Non. Quoi par exemple?
Je sais pas, par exemple, envie de pleurer. Et si ça donne envie de pleurer, ça peut faire un peu mal.
Non, pleurer c'est normal. C'est naturel. Faut pas avoir peur de pleurer.
Et la dernière fois que t'as pleuré, tu te souviens pourquoi c'était?
Non.
Tu veux pas le dire. Coquin. Hein? Mélanie, pour en revenir au reportage, tu avais des choses à dire aussi.
Moi je pense que si dans une classe, il y a une personne handicapée, c'est bien et pour nous et pour elle, parce que nous, ça nous permettrait de vivre avec une personne qui n'est pas comme nous, qui a des difficultés, et ça nous permet d'être plus matures. Et c'est bien, en fait.
Alors ça pose un sujet, je me suis demandé si j'allais vous poser la question, puis finalement je me lance, parce que c'est un sujet délicat. C'est l'interruption volontaire de grossesse. Aujourd'hui, il y a moins d'enfants trisomiques parce qu'il y a des diagnostics, ce qu'on appelle le diagnostic prénatal. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui se passe dans la tête d'une femme à qui on annonce que son enfant va être trisomique? Alors après, la question se pose, c'est je le garde, je le garde pas. Théa?
Moi, je pense que peut-être qu'elles penseraient plus à garder leur enfant si on parlait plus du handicap, il y aurait plus de conseils et elles se penseraient plus aptes à l'éduquer plus facilement.
Si elles étaient plus aidées.
Ouais, si elles étaient plus aidées, je pense qu'elles réfléchiraient plus.
Serdi, l'homme qui n'a jamais d'émotion, qu'est-ce que tu veux dire?
Moi, je pense que c'est pas tout le monde qui pense pareil. Nous, plus tard, il y a plus de femmes qui pensent qu'ils diraient non à l'enfant que d'autres, par rapport à notre génération.
C'est la femme qui choisit, in fine, c'est la femme qui décide si elle avorte ou pas. Quel peut être le rôle du garçon, de l'homme, à ce moment-là, tu crois?
Ça dépend des gens, mais...
Et toi?
Faut être prêt. Après, moi, je pense pas forcément à ça, mais je sais pas. Après, si elle est vraiment déterminée, à voir.
Ça se fait à deux.
Ouais,
ça
voilà.
Se décide à deux. Ouais. Christerline?
Je pense que la femme enceinte de l'enfant trisomie a aussi peur de l'avenir, genre parce qu'ils sont en retard. Peut-être que l'enfant va rester toute sa vie avec elle. Peut-être que la femme enceinte a peur de la responsabilité. Et je pense aussi que peut-être que la personne qui a la trisomie a aussi a des autres maladies. Comme, par exemple, l'enfant peut être autiste et aussi trisomie. Il peut avoir les deux.
Il peut
y
avoir des problèmes cardiaques.
Voilà, il peut avoir d'autres maladies avec la trisomie. Je pense qu'ils ont trop peur pour garder l'enfant.
Christophe Barrère, moi je suis scotchée parce que je ne sais pas si elle aura, moi j'aurais parlé aussi sérieusement des choses.
Non, absolument pas. Moi aussi, en vous écoutant en direct, je suis scotché parce qu'on n'a pas abordé, pendant qu'on voulait faire ce reportage, alors on n'est pas rentré là-dedans, mais là, en les écoutant, je trouve ça remarquable. Et voilà, oui, je suis d'accord, ça se décide à deux.
Bon, je pense qu'on va écouter un peu de musique, hein, on en a besoin. Est-ce que vous connaissez l'homme pâle?
Oui.
Oui, vous aimez, Serdi?
Ça va.
Non, t'aimes pas, ça va, ça veut dire pas trop. Coquin!
Ça veut dire quoi le bien? Je suis né, j'ai pas tout compris. C'est pas gentil d'être méchant, mais c'est plus rentable que le bonheur des gens. La misère ça impressionne moins qu'un salto. Ça les ennuie comme le goût de l'eau plate. Ah, ce monde c'est une bonne blague. Je lis les nouvelles pour me faire les abdos. Tu vas trop vite, tu perds beaucoup de points. Mais si t'es spontané, t'es dans le vrai. Un gros mot qui dérape en coup de poing. Un bisou qui dérape en le vrai. T'aimes te battre quand tu sors, mais même si t'as le regard de Ray Liotta, ton corps peut finir en désordre, comme les phrases de Maître Yoda. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue, oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Mais on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue, oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet. Les prochaines années sont glauques. Chacun se bat pour son clan. Une fille bien dans la maison close. Une pute dans la maison blanche. Je suis né, j'ai pas tout. Ok. Je suis né, j'ai pas tout compris. Si tu cherches des sensations fortes, la mort peut te faire un bon prix. Les pauvres gentils désespèrent, les méchants les ont laissés sperres. Mais pour eux c'est dans la poche, comme une amende réglée avec des espèces. Personne ne veut perdre son poste. Pour elle dinero, pour elle papel. Elle est douée mais elle est pas belle. Elle va devoir convaincre son boss. Aïe. Et on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue, oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Et on s'habitue, bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue, oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet. Paraît que la vie sur terre c'est un échantillon. L'enfer est flambant neuf, le paradis en chantier. Même si t'es gentil, on t'oubliera comme le premier i de suicide.
C'était Ray Liotta
de l'homme pâle.
Interclasse.
Interclasse.
Interclasse. Sur France Inter. Deuxième reportage de cette émission d'Interclasse avec les élèves du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles autour des violences policières.
Nous avons décidé de travailler sur les violences policières parce que ça nous touche directement. En banlieue, plusieurs fois dans l'année, nous en entendons parler. En 2019, le sujet est aussi arrivé jusqu'à nous du fait de la crise des gilets jaunes.
C'était jour de manifestation des gilets jaunes. Zineb Redouane était donc à sa fenêtre quand elle a reçu une grenade lacrymogène dans le visage. Elle est morte à l'hôpital quelques heures plus tard.
Une septuagénaire, Geneviève Leguet, tombée à terre pendant la charge des CRS, a été gravement blessée à la tête.
À Tours, un homme a eu la main arrachée par une grenade assourdissante.
L'ancien préfet Hubert Végel, spécialiste du maintien de l'ordre, nous a expliqué que tout est fait pour qu'il y ait le moins de confrontations possibles entre manifestants et forces de l'ordre. Pourtant, il y a eu des centaines de blessés et même des mains arrachées.
C'est des individus qui se croient plus intelligents que n'importe qui et qui se disent « Voilà, la grenade vient d'arriver, je vais la relancer, je la prends dans la main, je la relance sur les policiers. » Bon, et la grenade, il ne faut surtout pas s'amuser à la récupérer dans sa main, parce qu'elle va exploser. Et elle explose. Et c'est classique. Et si on utilise des grenades, à partir du moment où on utilise des grenades, il y a deux hypothèses. C'est que le dispositif policier a été attaqué. Ou alors qu'on a fait des sommations. Et à ce moment-là, on peut utiliser ce type de moyen de dégagement pour... C'est la loi qui le permet. Et si on utilise... Enfin, c'est archi-su que le principe de la grenade lacrymogène, c'est une explosion qui libère des gaz, si vous voulez. Et il est clair que l'explosion peut arracher des mains.
Selon une enquête de France Inter, publiée le 6 mai, il y a eu 290 plaintes contre la police, 92 pour tirs de LBD, 37 pour des grenades et 41 pour des coups de matraque.
Nous avons rencontré Assa Traoré, figure emblématique du combat contre les violences policières. Ce combat, elle le mène depuis la mort de son frère, le 19 juillet 2016, lors d'une interpellation.
Vous savez, normalement, un policier, on appelle ça un gardien de la paix. On est censé dialoguer, il est censé nous protéger. Mais quand on voit les images des gilets jaunes, quand on voit les violences dans les quartiers, quand j'arrive à la mort de mon petit frère, aujourd'hui, il y a énormément de violences. Énormément de violences. Vous savez, quand il rentre dans le quartier... Je vais parler de le jour de la mort de mon frère. Tout ce qu'il y avait dans le coffre était détaillé. C'est comme s'ils allaient en zone de guerre. Comme si ils rentraient dans un camp d'entraînement. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Pourquoi ? Et tout de suite, ça appelle à une violence et ça appelle pas au dialogue. Et je pense que les forces de l'ordre aujourd'hui devraient revoir leur formation et utiliser moins de violence, beaucoup moins de violence envers son peuple français. Parce que la situation, on l'a vu encore plus, parce que maintenant c'est devenu national. Mais c'était à l'intérieur des quartiers, mais là c'est devenu national. Oui, la violence, elle est énorme. Il faut arrêter ça très vite.
La crise des gilets jaunes a permis de donner une visibilité médiatique à des violences qui étaient moins connues auparavant.
Merci à Serdia Nanga, Joseph Mavinega, Cédric Chaussier et Amélie Kouka pour leur travail et à Christine Siméone qui vous a chapeauté. Serdi, c'est peut-être toi qui vas nous dire déjà pourquoi vous avez choisi ce sujet-là.
Parce que les bavures policières, c'est quelque chose qui se passe plus régulièrement en banlieue. Et comme nous, on habite en banlieue, c'est quelque chose que l'on vit un peu. Donc voilà.
Laura, toi, t'as pas bossé sur ce sujet-là, mais t'as quelque chose à te dire.
Moi, une fois, j'étais à la gare et il y avait un monsieur. Il était... Je sais pas ce qu'il avait fait, et il voulait le menotter et tout, et puis enfin, il était essayé de se débattre, mais sans plus, il n'y avait vraiment pas... Puis après, je suis partie, et quand je me suis retournée, je vois qu'il est à terre, ils sont tous sur lui et tout, je me suis dit ça n'en valait pas la peine. Enfin, c'était contrôlé en fait, il n'y avait pas besoin de le mettre à terre. Et j'étais choquée à ce moment-là.
Joseph, est-ce que les gilets jaunes, par exemple, là on en a quand même beaucoup parlé, et on a beaucoup parlé à ce sujet des bavures policières, est-ce que ça a pu aussi vous donner l'idée de le faire, de travailler là-dessus?
Bon, en fait, quand on a choisi le thème, il n'y avait pas encore l'histoire des gilets jaunes. Mais comme on habite dans des banlieues, comme mon camarade Sergi l'a bien dit, ben, on vit les bavures policières avec les histoires d'Adama Traoré, etc. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème.
Assa Traoré, ça a été une sacrée rencontre, donc la sœur, ça a été une sacrée rencontre pour vous ?
Oui.
Ça a été un choc ? Est-ce que ça t'a procuré une émotion, Serdi ?
Non, au début, je ne savais pas trop comment lui parler, si elle allait peut-être pleurer pour parler de la mort de son frère. Mais après, j'ai vu que quand elle commence à prendre la parole, je me suis dit, en fait, elle a fait plusieurs démarches. Ça se voit qu'elle s'est battue, en fait, pour arriver jusqu'à là. Donc, ouais, l'avoir eu parmi nous, c'est quelque chose de bien.
Tu penses que l'émotion, elle était déjà derrière elle, pour elle?
Ouais, voilà, c'est ça, en fait.
Ouais. Amélie, ça a été un choc de la rencontrer?
Pas de la rencontrer, mais de ce qu'elle disait. Ouais. Parce qu'il y avait plein de trucs que moi, je savais pas sur l'affaire d'Adama Traoré.
Qu'est-ce que tu savais pas?
Par exemple, qu'il avait plus de 250 kilos sur lui, je crois que c'est ça. Que leur famille, elle avait déjà un lien avec la police. Genre, elle avait déjà des frères qui étaient arrêtés par la police.
Et quand elle dit, à un moment donné, elle vous dit « la violence appelle la violence ». Cédric, on t'a pas encore entendu.
Pas forcément. Des fois, les policiers sont plus violents que ceux qui font les manifestants et tout. Si les manifestants, ils sont gentils, la police, ils ont pas besoin d'être violents. Et c'est réciproque. Si les policiers sont violents, là, les manifestants, ils peuvent être violents. Mais sinon, non.
Alors comment est-ce qu'il faudrait, quand un manifestant est violent, comment est-ce qu'il faudrait que le policier réponde ? Serdi ?
Moi je trouve que c'est de la provocation, dans les deux sens. Enfin, pas plus dans les manifestants. Parce que, par exemple, par l'histoire des gilets jaunes, quand par exemple il y a des policiers qui se font attraper, et ils se font tabasser par plusieurs gilets jaunes, quand c'est dans ce contexte-là, nous on dit qu'ils ont raison. Or que quand par exemple c'est l'inverse, le policier, il va faire une bavure sur, par exemple, un manifestant. Mais en vrai, si on se met à la place du policier, on ne voit pas tout. Il n'y a pas forcément à chaque fois des caméras, des téléphones pour filmer. Mais des images que j'ai vues, par exemple, certains manifestants qui lancent des choses qui peuvent blesser le policier, moi, à un moment, ça, j'aurais craqué, j'aurais fait la même chose.
Christine Siméon, bonsoir.
Bonsoir.
Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux ?
Ce qui était, je pense, aussi intéressant pour eux, même si ça ne se transcrit pas comme ça dans le reportage, c'est toute la discussion qui a eu lieu, notamment avec le préfet Végel, parce que là, on a un tout petit bout de l'interview, mais toutes les explications qu'il a pu donner. Et je pense qu'ils ont pu, c'est pour ça que c'est intéressant ce que dit Serdi là, qu'est-ce que c'est que l'usage de la force et à partir de quand est-ce qu'on commence à parler de violence policière, de bavure policière, mettre des zones de gris dans un tableau qui pouvait leur paraître extrêmement noir au départ, parce que effectivement, je pense qu'ils sont touchés émotionnellement par des affaires de bavures policières dans les banlieues, et que là, du coup, ils ont eu l'occasion d'avoir des discussions beaucoup plus cadrées, beaucoup plus calmes, beaucoup plus, voilà, des choses beaucoup plus aplaties sur qu'est-ce que le rôle de chacun, et voilà, à partir de quand est-ce qu'une situation peut déraper ou pas.
Alors, je ne sais pas si le Festival de Cannes, est-ce que ça vous dit quelque chose aux uns et aux autres qui s'est passé au printemps dernier ?
Oui. Ouais.
Un petit peu. Il y a un film qui s'appelle Les Misérables, qui a reçu un prix, le prix du jury, c'est pas rien, de Lajli. Lui, il était cop-watching, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, ça fait très longtemps qu'il travaille là-dessus, mais il prenait justement, il photographiait, et il passait ça sur les réseaux, il filmait les bavures policières. Et c'est ce que raconte aussi son film Les Misérables, puisque c'est à partir d'une bavure policière. Est-ce que ça, c'est important que ce soit dit ? Ça se passe à Montfermeil, parce que lui, il est de là, Lajli.
Ouais, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. On vit tout le monde.
Parce que là aussi, ça permet de tordre le cou aux idées reçues. C'est-à-dire qu'il y a trois policiers dans son film qui, eux-mêmes, viennent aussi des mêmes endroits, de banlieue aussi. Donc c'est plus complexe que ça n'en a l'air.
Ouais.
Laura, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que serait pour toi un bon policier ?
Ce serait quelqu'un qui défend quand on lui demande et qui n'utilise pas la violence pour rien. Ou quand il n'y en a pas besoin, par exemple.
Alors, qu'est-ce qu'il doit utiliser à la place de la violence ?
Ça peut être des gestes plus contrôlés, ou alors même des paroles.
Parler.
Mm.
Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de dévier la violence dans ces cas-là ?
Si.
On fait autre chose.
La violence, ça ne résout rien, en vrai. Donc, je pense qu'on peut esquiver ça.
Vous pensez que si on écoute un peu de musique, ça va faire retomber la tension ? Tyler, the Creator, le rappeur, ça vous dit quelque chose ? Il a sorti un nouvel album, il est californien, il fait plein de choses parce qu'il est aussi acteur, designer, scénariste, réalisateur. Alors je ne sais pas si vous allez voir ses images, ses photos, il est d'origine nigériane. De temps en temps, il a les cheveux noirs, mais de temps en temps, il a les cheveux blonds et c'est assez joli. Four.
what I'm pulling. What the fuck is your motive? Man, I wish you would call me by your name, cause I'm sorry. This is not apology. You are such a distraction. That's what Tiana are. Fucking up my ambiance. Pause. You drive me cuckoo and not call. Cause I want you like Leon. Wah. Fuck that. Okay, say it, get it.
Fuck that.
Okay, wait a minute. I dread that shit, I am on. Walk curiosity, keep the feline gone.
I'm falling in love. This time I think it's for real. I think I'm falling in love.
This time I think it's for real.
How can I tell you? 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 How can I tell you?
Attention. I'm off balance, I need some fix on. I'm your puppet, you are Jim Henson.
Falling in love now.
I think I'm falling in love.
Falling in love now.
This time I think it's the way.
How can I tell you? 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 Take me to the bridge.
Tara et Laura, ça vous a plu ce qu'on vient d'entendre ? Laura ?
Moi, ça m'a plu, mais c'est pas ce que j'écoute d'habitude.
Alors, qu'est-ce que vous écoutez ?
Moi, j'écoute du Jules. J'aime beaucoup ce chanteur. Et sinon, j'écoute des musiques dans ma langue, en araméen.
Tara, qu'est-ce que tu écoutes, toi ?
Alors, moi, j'écoute plus des musiques chrétiennes, gospel, tout ce qui est dans ça, en fait. Et puis, j'aime beaucoup et je préfère écouter ça plutôt que d'autres musiques.
Interclasse,
saison 4, sur France Inter.
Alors après la trisomie et les violences policières, on va parler de robots, puisque c'est le thème du troisième et dernier reportage. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
C'est sous votre houlette que les élèves ont travaillé. Vous allez peut-être nous dire un petit mot d'un sujet qui vous est cher.
Mais oui, vous imaginez combien c'est large les robots. Donc on a beaucoup travaillé sur où est-ce qu'il y a des robots, à quoi servent-ils, quelles sont éventuellement les règles, etc. Et finalement, au fur et à mesure des séances, on a resserré sur une seule chose. Il était souvent question des robots tueurs ou des robots de l'armée et les questions éthiques ou juridiques que cela posait. Et du coup, le reportage que vous allez entendre s'intéresse surtout à cet aspect. Est-ce qu'il faut imaginer de nouvelles règles pour les robots ?
Eh bien, on l'écoute.
Anne-Tidane Rodom est professeure de droit public à l'université Paris-Descartes. Pour elle, il n'y a pas qu'une règle.
En réalité, il n'y a pas forcément des lois spécifiques pour tel ou tel robot, mais il y a toujours du droit qui existe, quelle que soit l'évolution des technologies. Plutôt que de savoir s'il faut créer des nouvelles règles, finalement, c'est plutôt comment est-ce qu'on doit adapter le droit existant. Est-ce qu'on parle des robots de la vie civile ? Est-ce qu'on parle des véhicules autonomes ? Des robots tueurs ? Il y a plein de types de robots différents qui vont appeler l'application de règles différentes.
Prenons des exemples.
Parmi les robots les plus utilisés en 2019, il y a les drones. Ils sont beaucoup utilisés au cinéma et en vidéo pour les plans aériens, clips ou documentaires. Comme dans le clip ODD du groupe PNL.
ODD ? Je la passe la détaille, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV.
Pour Antoine Devoir, photographe professionnel reconverti en droniste, cet usage des robots est nouveau.
C'est quelque chose de nouveau. Il y a eu une rupture, c'est-à-dire qu'autrefois on ne pouvait pas faire de plan aérien, ou alors avec des gens comme moi qui prenaient une toile de parachute et un moteur dans le dos, mais ça restait anecdotique. Aujourd'hui, si vous voulez faire de la photographie aérienne, c'est extrêmement facile. Pour quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, vous pouvez avoir des plans aériens extrêmement rapidement. C'est une nouveauté, vraiment. Ça n'existait pas avant.
Maintenant, parlons d'un autre type de robot aussi performant, mais qui font l'objet de controverses. Ce sont des drones modifiés pour tuer.
Ce que vous entendez est l'attaque par un drone lors d'un défilé militaire le 4 août dernier au Venezuela, en présence du président Nicolas Maduro.
Aux États-Unis, l'armée utilise déjà des drones sur les champs de bataille pour repérer l'ennemi et le bombarder, comme en Syrie par exemple. Ces drones doivent-ils voler entre 0 et 150 mètres d'altitude comme l'exige la réglementation pour les drones civils ? Antoine Devoir nous répond.
Les drones militaires s'assoient sur la réglementation. Parce que quand il s'agit d'aller tuer des terroristes avec des drones qui sont armés, eh ben on va au-dessus des 150 mètres et donc on rentre dans l'espace aérien contrôlé. Et donc le voir et l'éviter étant impossible, on n'arrive pas pour l'instant à trouver une règle qui permette à ces drones militaires de voler dans l'espace aérien.
La voiture K2000, Megatron, Terminator, ces robots qu'on voit au cinéma existeront-ils vraiment ? La société de demain ressemblera-t-elle à iRobot ?
Qui êtes-vous ?
Non, selon Anne-Tita Norodom.
La ministre des Armées, Florence Parly, qui a fait un discours justement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de l'armée et qui a clairement affirmé qu'il n'y aurait pas de Terminator dans l'armée française. Donc l'idée ici, c'est de dire que la France refuse que la décision de vie ou de mort soit confiée à une machine sans contrôle humain.
Si un jour, les robots ont la permission de tuer, qui sera responsable ?
La question qui va se poser, c'est est-ce que c'est l'entreprise qui a créé le robot ? Est-ce que ce sont les militaires qui vont utiliser ce type d'armes ? Est-ce que c'est l'État ? Puisque c'est l'État qui va embaucher, utiliser ces robots dans le cadre de l'armée. Ce sont des discussions qui sont en cours. Les principes qui émergent dans les négociations en cours au sein des Nations Unies, c'est que les États sont responsables des actes des personnes qui font partie de leurs forces armées.
Selon la ministre des Armées, un robot ne peut pas avoir droit de vie ou de mort sur un être humain sans supervision.
En 2019, il n'y a pas encore de raison de s'inquiéter.
Merci à Eunos de Souza, Andy Gabriel et Thierry Paul qui ont travaillé sur ce reportage. Je dois dire que c'est assez pointu votre angle. Andy, comment est-ce que vous avez choisi ce sujet ?
Eh bien ce sujet, bien qu'il soit moins grave et sérieux que le précédent, il nous intéresse parce que ça parle vraiment de l'avenir. Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux technologies qui se créent et qui avancent.
Mais est-ce que, alors Thierry, tu en as déjà vu des robots toi ?
Oui.
Lesquels ? Alors,
En fait, on était parti à une exposition au Musée des Sciences, je crois, et il y avait des robots qui bougeaient et qui parlaient.
Andy, tu pourrais, toi, envisager d'en fabriquer des robots ?
Franchement, non, c'est un peu effrayant, les robots. Enfin, ceux qui bougent et ceux qui ressemblent à des humains, etc. Comme dans les films, là. Moi, je touche pas à ça.
Eunos, qu'est-ce que tu en penses ?
Personnellement, moi, ça me dérange pas. Un robot qui a l'apparence d'un humain, je dirais juste que c'est la technologie qui avance.
Donc t'es plutôt émerveillé par la prouesse technologique.
Oui, exactement.
Alors Thierry, tu parlais de l'exposition à la Cité des Sciences. Vous y êtes allé ? Vous êtes plusieurs à y être allé ?
Oui.
À cette exposition ?
Oui, il y avait tout le groupe robot.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris ?
Qu'il y a même des nanorobots qui sont utilisés pour des recherches ou des missions de sauvetage.
Andy, quel souvenir tu as de cette exposition ?
Ouais, c'est pas juste... même une machine à laver, ça peut être un robot. Et même choses les plus basiques, elles peuvent être très évoluées et utiles.
Une voiture qui roule toute seule, ça sera un robot, c'est déjà un robot, ça existe déjà. Bon, c'est pas courant, mais tu te vois être dans une voiture comme ça ?
Voiture automate, c'est, Il y a des choix qui... En fait, les robots, ils sont imprévisibles un petit peu. C'est les humains qui le conçoivent, mais on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent avoir un dysfonctionnement et puis il y a un problème.
Si une idée leur prend, ils peuvent faire autrement que ce dont on a envie.
Ouais, c'est pour ça qu'on a posé des questions à juristes.
Ouais,
oui, vous voyez, c'est ça qui a conduit finalement à ce reportage-là, c'est qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes chez les élèves sur les comportements nuisibles, on va dire, des robots, et est-ce qu'on pourra vraiment les contrôler complètement ? Est-ce que l'homme pourra contrôler les machines qu'il va fabriquer ? D'où les questions à la juriste.
Et là, ça pose des problèmes juridiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément faire de nouvelles lois, mais en tout cas adapter celles qui existent, déjà le dispositif juridique.
Si, par exemple, un camion fonce sur une voiture, la voiture va essayer de la dévier, mais en même temps, il y a un piéton qui passe. On ne sait pas quel choix elle va faire.
Andy ?
Oui, justement, il y a des programmes qui sont faits pour choisir, par exemple, la personne la plus âgée, ou, enfin, c'est cru dit comme ça, mais ouais, il y a des choix éthiques qui doivent être faits par les robots, et c'est ça qui est un peu inquiétant.
Serdi, toi qui appartiens au groupe donc qui a travaillé sur les violences policières, les drones, ça sert en la matière. Ça peut photographier, filmer des choses qui se passent. Et c'est un robot, le drone. Bah, c'est une utilisation concrète, là.
En fait, les robots aussi, c'est quelque chose d'intéressant, en fait. Je pense que j'aurais eu beaucoup de questions à poser.
Et qu'est-ce que tu aurais posé, alors, comme question ? C'est intéressant, ça, de savoir.
Bah, par exemple, les voitures qui sont conduites uniquement par les robots. Le risque de si jamais le robot il se rebelle, si je peux dire, ou voilà quoi. En fait, je sais pas si on peut avoir 100% confiance au robot.
T'imagines, tu irais en classe avec un robot, il répondrait aux questions que t'as pas travaillées, aux leçons que t'as pas apprises à ta place, ce serait génial, non ? Andy ?
Ouais, tant mieux, hein. Ça fait le boulot et puis...
Oui, sauf que le problème, c'est que si c'est lui qui répond à ta place, t'es dépendant de lui. C'est-à-dire, s'il est pas là, tu sais pas. T'as pas appris ta leçon, tu sais pas. Oui ?
En fait, si on devient trop dépendant d'eux, un jour, s'ils ne seront pas là, on sera incapable de faire des trucs. Par exemple, si les robots nous remplacent à faire des métiers durs, et par exemple, un jour, il y a une grande panne, ben, les hommes ne sauront pas comment faire alors.
Serdi ?
Comme Thierry l'a dit, par rapport au métier, j'avais vu qu'il y avait un reportage chez Amazon, il y a plus de robots que d'employés. Et à la fin, il y avait une dame qui disait, elle avait demandé à quelqu'un qui travaille là-bas, est-ce qu'un jour, il pourrait ne plus avoir d'employés que des robots ? Elle a répondu que non, c'est pas parce qu'il y a des robots que forcément il n'y aura plus d'employés, quoi.
C'est extrêmement intéressant, en fait, la réflexion de ces jeunes, parce que vous êtes nés avec, finalement, ces automates et ils vont prendre de plus en plus de place. Mais vous voyez bien les questions qu'ils se posent. C'est vraiment des questions fondamentales d'éthique, de la place de l'humain, de la responsabilité de la machine. Et voilà, est-ce qu'elle nous fera du mal ? Est-ce qu'elle prendra nos emplois ? C'est très intéressant, je trouve.
Ouais. Mélanie ?
Mais toujours en rapport avec les métiers. Moi, je pense que c'est pas bien de mettre trop de robots aussi, parce que, par exemple, dans un commerce, par exemple, avec les caisses libres maintenant, c'est nous qui devons scanner nos produits et payer avec la machine. Si ça se développe trop, au final, il y aura moins d'employés. Et s'il y a moins d'employés, ça cause un taux de chômage trop élevé. Ben, nous, on devient quoi ?
Laura et Tara, qu'est-ce que vous en pensez ? Un robot un peu, pour aider un petit peu quand même, sur certains travaux pénibles, c'est très bien qu'il y ait des robots. Tara.
Oui, c'est vrai que ça pourrait aider dans beaucoup de choses, mais c'est pas pour ça qu'on doit vivre avec ou sinon dépendre de ça, en fait.
Voilà. Thierry ?
Par exemple, s'il y a des robots qu'on utilise en cuisine, ben, la personne ne va plus forcément essayer de cuisiner, mais plutôt elle va confier au robot, et du coup on commence à perdre nos capacités naturelles ou ce qu'on a appris.
Est-ce que c'est pas une façon de faire de la cuisine pour ceux qui, de toute façon, n'en feraient pas et qui achèteraient des saletés de produits déjà tout faits et que du coup, ben, un robot, ça peut t'aider aussi à, si ça te coupe les légumes ou les fruits, ça peut aider.
Oui, si ça, par exemple, ça coupe les légumes, ça va encore. Mais si ça fait toute la cuisine, c'est pas ça.
Et est-ce que le fait que le robot n'ait pas de conscience, ça c'est quand même une grande différence avec l'humain, non ?
Oui.
Mais heureusement qu'il en a pas.
En fait, il est programmé. Donc, si on a fait une mauvaise programmation, il ne pourra pas faire ce qu'on veut ou alors il fera mal les choses. Et ça posera un très gros problème pour nous.
On va peut-être écouter un peu de musique. Alors là, c'est vous qui l'avez choisi. Donc forcément, enfin, je ne sais pas s'il y a eu un consensus. Ah non, c'est Andy. C'est toi c'est qui l'as choisi tout seul.
C'est Andy. Yes.
C'est Andy. T'as choisi.
Mais t'es pas dedans. C'est une décision collective.
Collective, voilà. Mais bien amenée sous ta houlette.
Non, collective, à 100%.
À 100%, tu ne les as pas menacés. Non. Alors, qu'est-ce qu'on écoute ?
C'est Kamura feat. Niska, Sucette.
Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je réglais tout ça, mais comment on va faire. Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté. Tout ce temps, je m'en foutais, je faisais la belle là. Je reviens vers toi, tu me dis que c'est trop tard. Je suis plus Pambella, bander un fleuve. Je vais pas mentir, j'ai le seum seum. Faut calmer ton cœur, pardon. Pas les mots qui blessent, c'est trop. Vas-y doucement, pardon. Tout ce temps, je recoulais. Ah non, ah non, faut pas phaser. Ah non, ah non, faut pas bomber. J'ai parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire. Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté. Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire. Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté.
Projet gâté, elle est fâchée. Elle fait la teuté, elle a pas dit son dernier mot. Attends s'il te plaît, je vais t'expliquer. Je me suis fait péter, elle m'a dit entre nous c'est mort. Et si je pars retrouver pas la folle avec mes potes, je te laisserai toutes mes affaires et tous les soirs fais bien les comptes. Et si mes ennemis viennent un jour sonner à ta porte, tu regardes sous la voie, y'a mon fusil derrière la porte. On contrôle le cartel, chaque jour y'a l'oseille qui m'appelle. La confiance ça se gagne, fais-moi montrer que t'es dans le bain.
Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Projet parti en sucette. C'est la merde, mais dis-moi comment on va faire? Je dois régler tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté?
J'ai confiance en personne, toujours dans le sale. Dis-moi pourquoi tu veux pas que je traîne avec Melosa.
T'as confiance en personne, toujours dans ton sale. Dis-moi pourquoi tu préfères être avec Melosa.
J'ai confiance en personne, toujours dans le sale. Dis-moi pourquoi tu veux pas que je traîne avec Melosa.
T'as confiance en personne, toujours dans ton sale. Dis-moi pourquoi tu préfères être avec Melosa.
C'était Sucette de Niska et Aya Nakamura.
La désannonce du disque était faite par Mélanie. Merci Mélanie. Un mot avec vous Nathalie et Ludovic, vous qui êtes les professeurs donc de cette classe. Moi je trouve que franchement ça a volé assez haut. Je sais pas comment ça se passe en classe Nathalie.
Ça se passe pas toujours comme ça en classe, mais là voir les travaux finis, je pense que c'est vraiment, on voit vraiment quelque chose qui est bien, qui a un travail abouti, où on sent qu'ils ont le résultat de toute une réflexion, et puis le résultat aussi, je pense, du stress ou de la concentration des moments d'enregistrement, enfin des moments d'enregistrement et des moments en amont où ils ont réalisé vraiment le zoom, où là, sur une matinée ou deux matinées, tout d'un coup, ils ont été aussi hyper efficaces, et on sent que toutes les briques du puzzle se sont mises en place. Et je pense que ça leur a aussi beaucoup appris sur la manière dont on peut travailler et la manière dont on peut construire quelque chose, en fait.
Le mot de la fin, comment est-ce que vous imaginez votre futur, puisqu'on a parlé notamment des robots, Andy, est-ce que tu as une idée là-dessus?
Je dirais c'est genre dans les cités, etc., je pense que les gens ils seront plus reconnus pour ce qu'ils sont et pas pour les préjugés que l'on pense. Par exemple, nous, on fait des travaux comme ça, où on dénonce que les préjugés, et je pense qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus tellement, et puis ouais, les gens ils vont pouvoir faire... ils seront connus pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'on pense qu'ils sont.
Théa?
Bah, je pense que dans la société en général, les mentalités, elles auront peut-être un peu évolué. Mais c'est compliqué de changer des personnes. Donc je pense que sur différents sujets, il y aura toujours des préjugés ou des regards de travers un peu.
Laura ?
Bah, ce sera mieux. Ce sera malheureusement plus entouré de robots, de gadgets. Et ça va être mieux, je pense.
Mélanie, ça va être mieux ?
Mieux, je sais pas. Mais des rencontres que j'ai faites, des interviews que j'ai faites avec mon groupe par rapport à la trisomie, avec ce qu'on a pu écouter des autres groupes, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ça peut nous permettre à nous et aux autres, à ceux qui nous écoutent, de changer nos regards par rapport à tout ce qu'on a pu aborder.
Et toi, Tara ?
Bah, moi, je me vois dans mon travail, avoir une famille normale et heureuse.
Tu veux avoir des enfants ?
Oui.
Et à Marie ?
Oui.
Et quel boulot ?
Et architecte d'intérieur.
C'est le paradis ?
Paradis, non, mais c'est un super métier que j'aime beaucoup.
Et avec beaucoup de bonheur ?
Oui, beaucoup.
Tout ce qu'on vous souhaite.
Merci.
Merci à Lauriane Toulmont qui a réalisé cette émission, à Fanny Léonore Crouzet qui a été chargée du dispositif d'Interclass, à Benjamin Orgeret qui a assuré la prise de son, à Muriel Pérez pour sa programmation musicale. Merci à vous, les élèves de seconde du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles, ainsi qu'à vos professeurs. Au revoir.
Au revoir.